Merci beaucoup. Donc, je suis vraiment très heureuse de pouvoir donner cette conférence ici. C'est la deuxième fois que la Fondation participe à quelque chose, un événement concernant les deux Courten. La première fois, c'était pour la journée du patrimoine, il y a 2 ans, et nous ne savions pas encore quel était le lien étroit entre Rilke et cette maison. Donc, il y a bien du nouveau depuis là. En septembre 2017, dans le cadre d'une correspondance, d'un colloque sur les correspondances de Rilke aux archives littéraires de Berne, j'ai pu donner une conférence en allemand sur cette correspondance Rilke-Marietta de Courten, dont une seule lettre a été publiée à ce jour. Et donc je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous présenter cette correspondance ici. À Sierre, ville d'où la destinatrice est originaire. Cette conférence vous montre aussi un petit peu le type de travail que nous faisons, parce que nous avons reçu un don absolument magnifique, une lettre de Rilke à Marietta de Courten, et c'est de là que tout est parti, c'est de là que nous avons vraiment pu trouver tout un échange épistolaire vraiment riche en facettes. Je vais faire d'abord l'inventaire de cet échange que je vous distribuerai. Je vous parlerai ensuite du contenu de lettre. Et pour finir, j'essaierai un petit peu de dessiner le cercle d'amis qu'on peut en déduire. Donc c'est, comme je vous disais, le récent don à la fondation d'une lettre originale de Rilke à Marietta de Courten de la part de la famille. C'est à l'origine de ces recherches, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'archiver un tel trésor, il s'agit surtout aussi de le montrer au public, de l'inscrire dans le contexte de la correspondance. Et puis, nous montrons en ce moment des vitrines, justement avec cette correspondance, une partie munichoise, une partie valaisanne. La lettre en question, je vais mettre l'enveloppe, donc est adressée à Irisirge Erte Gräfin Marietta Courten, Amalienstraße 55, sans indication d'une localité et sans timbre. L'année 1918 a été rajoutée ultérieurement sur l'enveloppe. La rue en question se trouve à Munich, la voici, Amalienstraße 55, ville où Rilke a séjourné à plusieurs reprises et où il a en grande partie passé la Première Guerre mondiale. Que le poète livre lui-même ou fasse livrer ses lettres n'est pas inhabituel. Nous avons un tel témoignage dans un texte de ses premiers séjours munichois intitulé « Ewald Tragi » à qui le Rilke fait dire « Après quoi ?» Tragi porte lui-même la lettre et les poésies à l'adresse car la poste, tout de coup, ne lui paraît plus sûre. Donc Rilke a fait ça plusieurs fois. Nous avons par ailleurs aussi trouvé 2 enveloppes, mais vides, adressées à Marietta de Courten, même sans la rue, donc aussi des documents portés lui-même. Donc à réception de cette lettre, j'avais connaissance déjà de 2 autres lettres de Rilke à Marietta de Courten, mais toutes deux écrites en valais. D'une part, la seule lettre publiée, elle date du 1er août 1921 et elle a paru dans le volume Briefe aus Musot, publié par la fille du poète Ruth Sieber Rilke et son gendre Karl Sieber 1937 au Insel Verlag. Une autre lettre de Rilke à Marietta de Courten du 30 novembre 21, accompagnée d'une carte postale, se trouve depuis l'an 2000 dans la collection de la Fondation Rilke. Il s'agit ici également d'un don provenant de la famille de Courten. Permettez-moi de vous présenter brièvement la famille bavaroise ici. Donc, de gauche à droite, vous voyez Carlo Courten, Elisabetta et Marietta, leur mère et Angelo, le père. Rilke parle dans une lettre à sa confidente Nanny Wunderli Folkart. Je le cite. Le grand-père de Carlo Kurten était le fameux dernier général papal Raphaël de Kurten, qui, à cause de son activité, s'est installé en Italie. De ses trois fils, deux restèrent en Italie. Le troisième, Comte Angelo, a fréquenté en tant qu'élève de Pilotti l'Académie des Beaux-Arts munichois. Il a épousé la fille de l'architecte Klenze et est resté à Munich. Ce dernier est le père du comte Carlo, qui devient ainsi le fondateur de la branche bavaroise de la famille de Kurten. Vous voyez, Rilke était bien renseigné. Si personne ne s'étonne du lien entre Rilke et la famille Assière, il en va tout autrement pour Munich. L'adresse munichoise de Rilke est dès le 18 mai 1918 et jusqu'à son départ en Suisse, à Einmillerstraße 34. Vous voyez la maison. Et puis la plaque commémorative qui a été appliquée sur cette maison. À Marienstraße 55, l'adresse de la branche bavaroise de la famille de Kurten se trouve tout près de là. Dans un livre de Gerhard Bellinger et de Brigitte Regler-Bellinger publié en 2012 et consacré aux nombreux habitants célèbres de la Einmillerstraße, il y en a eu beaucoup, Paul Klee était voisin de Rilke par exemple, je suis tombée sur une citation provenant d'une autre lettre de Rilke à Marietta de Kurten. La source indiquée est l'archive de la famille Rilke à Gernsbach dans le sud de l'Allemagne. Madame Hella Sieber-Rilke a eu la gentillesse de nous envoyer une reproduction du typoscrit de cette lettre datant du 11 octobre 1918. Cette lettre a été transcrite par la fille du poète. Le lieu où se trouve l'original n'est pour l'heure pas connu. Vous voyez que la transparence laisse entrevoir une autre transcription, à savoir la lettre publiée du 1er août 1918. Le passage supprimé de la dans la publication, parce qu'il y a comme ça ces parenthèses en début, on ne sait pas s'il y a trois pages, quatre, non, c'est quasiment rien. C'est seulement « Ich hole nach den ». Voilà, on le voit ici tout en haut, « Ich hole nach den », c'est-à-dire « Je rattrape car ». On se demande un peu pourquoi ces quatre mots ont été évincés. Nous avons reçu également de Gernsbach une reproduction d'une lettre manuscrite de Marietta de Kurten, à savoir sa réponse à la lettre de Rilke envoyée seulement deux jours après celle du poète. Voici cette lettre. Nous avons trouvé d'autres éléments de cette correspondance aux archives littéraires à Berne, tous datant des années valaisannes du poète. Il y a d'une part la réponse de Marietta de Kurten à la lettre publiée de Rilke du 1er août 1921, écrite le 4 août 1921, donc trois jours après celle du poète, et envoyée depuis Miesbach, la résidence campagnarde de la famille de Kurten, non loin de Munich. J'aimerais souligner quand même le bon fonctionnement de la poste à l'époque, malgré les réticences de Rilke. Deux jours, trois jours avec la Suisse, c'est quand même pas mal. Les archives littéraires de Berne nous ont fourni une autre réponse de Mariette de Kurten à Rilke, écrite le 22 décembre 1921. La lettre de Rilke à laquelle se réfère la comtesse était dans un premier temps inconnue. Trois autres documents se trouvent aux archives littéraires à Berne, à savoir deux cartes postales envoyées à Musotte et signées par différentes personnes, l'une du 19 avril 1922, promenant de Miesbach, l'autre de Rome le 24 février 1923, ainsi qu'une lettre de Marietta de Kurten du 23 septembre 1923, écrite à Munich mais expédiée d'après l'enveloppe le 11 octobre 1923 à Berne. Recherche faite, il s'avère que la lettre manquante de Rilke de l'année 1921 a été vendue aux enchères le 21 mai 2012 chez Ketterer Kunst à Hambourg, en même temps qu'une carte postale de Rilke à Marietta de Kurten datée du 31 décembre 1918. Contrairement à la carte postale, la maison de vente a fort heureusement photographié cette lettre et nous a mis son texte à disposition. Ici, je n'ai pas la photo, mais je vous montre un peu cette page du vendeur. Alors, nous aurions aimé entrer en contact avec l'actuel propriétaire. Nous avons fait la demande, mais Ketterer Kunst nous a informé que les deux, la lettre et la carte en question, ont été acquis pour être revendu. Vous voyez ici, c'est un peu pour ça que j'ai mis ça aussi. Ils étaient estimés à 1 000 euros. Ils ont été adjugés à 5 000 euros. Et s'ils devaient de nouveau être sur le marché, parce que nous regardons bien sûr, nous doutons fort heureusement que ce soit dans les moyens de pouvoir compléter notre collection par ces deux documents. Donc, nous avons fait le nécessaire pour que tous les éléments maintenant connus de cette correspondance soient inclus dans la concordance qui répertorie jour par jour toutes les lettres qui est tenue par la Rilke Gesellschaft, mise à jour par Peter Obertür qui est membre de notre conseil de fondation également. Donc, l'inventaire de cet échange épistolaire consiste donc à ce jour à la liste que vous trouvez sur votre handout. Je vous donne ça, merci beaucoup. Vous voyez, c'est vraiment une correspondance quand même assez conséquente et qui a justement cette particularité de lier le séjour munichois au Valais, où Rilke a d'habitude fait une coupure très forte. Alors avec la plupart des gens de Munich, il n'a pas gardé le contact après. Donc c'est un échange de lettres tout en langue allemande, ça j'aimerais souligner. Et c'était vraiment un scoop pour nous que nous avons découvert grâce à cette lettre reçue que Rilke connaissait les membres de la famille de Kurten déjà à Munich avant même de venir en Suisse et à Sierre. Enfin c'est vraiment quelque chose qui nous a... c'était une belle surprise pour nous. Oui, oui, oui. Comme nous montre la lettre de Rilke du 11 octobre 1918, c'est le numéro 1, lui et Marietta de Kurten se connaissaient au moins depuis l'été précédent, car il lui écrit, je le cite, « Si durant cet été je n'ai pas répondu à votre aimable proposition, cette omission s'est produite sous la condition préalable que je m'annonce un jour qui aurait sans doute été un des plus beaux. » Mais jamais je n'ai été autant bernée par un été. Par celui-ci, je me suis vraiment fait avoir, comme on dit. Et hélas, on ne peut rien reprocher à l'automne parce qu'il n'y en a quasiment pas eu. Je regrette infiniment d'être un humain. Mais en ce mois d'octobre, j'aimerais pas non plus exister en tant qu'arbre et devoir constater que je deviens simplement miteux au lieu d'être lumineux et arboré d'une manière brillante, la couleur de l'adieu. Il est difficile de dire quelle sorte d'existence offre encore quelques réjouissances. » Fin de la citation. Le poète, résigné par l'actualité de son époque, se réfère dans cette lettre à la maison de campagne de la famille à Miesbach et demande, la voici, en hiver, très belle, et demande d'un air étonné, citation, « Vous aménagez dans une nouvelle maison à l'heure actuelle où il n'y en a plus aucune qui pousse ?» Dans le carnet d'adresses que Rilke s'est acheté pendant ses années à Munich, Marietta et sa sœur Elisabeth, je remercie beaucoup M. de Kurten de nous avoir mis cette très belle photo à disposition. Les deux sœurs figurent avec leur adresse à Munich et avec celle à Miesbach. Ça veut dire l'adresse des sœurs a donc été inscrite seulement après l'évocation de la maison de campagne. Faut-il en déduire que la connaissance ne date pas d'avant l'inscription dans le carnet? Cette lettre montre aussi une fois de plus à quel point l'écriture de Rilke est bloquée par la guerre et aussi que la vie sociale en est profondément affectée. Dans cette lettre d'octobre 18, le poète revient explicitement sur la situation de guerre et sur son effet en se référant à une église dans son quartier de Schwabing, le quartier latin de Munich. Les divers espaces de Munich se vident progressivement. Depuis que les trois grandes cloches de l'église Sainte-Ursule sont parties, brisées dans la guerre, j'ai l'impression de ressentir dans mon oreille le même vide qui s'est emparé depuis longtemps de mon visage et de mon âme. Vous constatez, d'après cette confession, qu'il faut apprécier à ne pas me voir, car je ne peux guère apporter autre chose à mes amis qu'une humeur grincheuse et morose, ou au moins fatiguée. Fin de citation. Cette équivalence intérieure, comme le poète la nommera plus tard au Valais, est basée à ce moment de sa vie sur le vide. La réponse de Marietta de Courten suit peu après. C'est la lettre numéro 2 du 20 octobre 1918. Elle se réfère très concrètement à la situation politique. Il y eut un sentiment libérateur quand le prince Max de Baden a parlé pour la première fois. Enfin, après toutes ces années de mensonges et d'aveuglement, quelques pensées nobles. Seulement, je crains que cela soit trop tard, et maintenant, ce qui était bon est couvert par les cris et les exigences humiliantes de nos ennemis. Une période difficile arrive. Elle est aussi nue et dépouillée que le présent automne, comme on espère l'arrivée du printemps. Peu après, le 7 novembre 1918, éclate la révolution à Munich, dont nous entendrons parler samedi dans une semaine à 17h. Rilke a passé cette soirée du 7 novembre dans un concert avec des Melodien aus alter und älteste Zeit, comme nous apprend son amie actrice avec le pseudonyme Elia Maria Nevar, qui l'a accompagnée le soir de la Révolution. Rilke, préoccupé par les événements, lui écrit le lendemain pour prendre de ses nouvelles. Je cite « Et fais-moi savoir que tu es bien rentré, je me suis fait des reproches, de t'avoir fait sortir de la sécurité de chez toi un tel soir. Ce n'était pas le soir de s'adonner aux temps anciens et très anciens, mais à celui qui est, peut-être, fini hier. » Nous ne savons pas si Rilke se réfère à l'actualité politique dans sa carte du Nouvel An du 31-12-1918, que nous ne connaissons pas le numéro 3 de l'inventaire. Nous ne savons pas non plus si Marietta de Courten y a répondu. Nous n'avons pas connaissance d'autres lettres de cette époque turbulente après la Révolution de Munich. La prochaine lettre connue date du Samstag vor Ostern, samedi avant Pâques, le numéro 4. Et cela doit être 1919 et non 1918, comme noté sur l'enveloppe. L'indice pour l'année juste est contenu dans la lettre même et se laisse déterminer grâce à un livre qui est mentionné comme cadeau de Rilke à Marietta et à sa sœur Elisabeth. Je le cite. « Mais à Pâques, il écrit, j'aimerais être auprès de vous avec un livre profondément rassurant. Je le mets entre vos mains et entre celles de votre sœur. Verheeren a été mon grand ami. Je l'ai aimé de tout cœur. Les flammes hautes, terminées déjà en 1914, n'apparut que récemment après sa mort. » Bien que le livre apparut en 1917 déjà, Rilke le découvre seulement en début 19. Comme nous montre son échange épistolaire avec Elia Maria Nevar, dont il a fait la connaissance seulement en automne 1921. C'était une actrice, on la voit là en plein en exercice de ses activités. Par ailleurs, d'autres lettres du poète nous confirment cette date car il offre le livre en même temps à plusieurs personnes en parlant du fait qu'ils viennent de le découvrir. Cette lettre, toute comme celle qui précède, mentionne l'exil difficile du poète et l'impossibilité d'écrire qui est liée. Je le cite. L'isolement sévère que j'ai dû m'imposer autant que possible de manière ininterrompue à cause de la concentration et du travail me sépare toujours à nouveau de vous, tout comme elle me tient éloignée des amis qui pourraient adoucir mon exil munichois. Donc il parle explicitement de l'exil munichois. Mais j'étais obligée d'autant plus dans les circonstances actuelles de choisir le recours au travail afin de pouvoir rester plus ou moins dans un accord intérieur avec moi-même. Fin de citation. Les lettres datant des années d'exil munichois de Rilke sont montrées dans la première dans nos deux vitrines temporaires. Comme nous le savons, Rilke a quitté Munich le 10 juin 1919 pour une tournée de lecture en Suisse allemande et il finira par s'installer en Suisse. Contrairement à d'autres contacts, celui avec Marietta de Kurten ne cesse pas à cause de ses départs. Bien au contraire, il va s'intensifier, et vous en devinez la raison. Grâce au valet, grâce à Sierre, ses lettres prennent une dimension toute nouvelle. Dès que Rilke a découvert Musotte, il écrit le 4 juillet 1921 à Nanny Wunderli-Volkart en dessinant la vieille tour et en rêvant « Cher, c'est peut-être mon château en Suisse, peut-être ». Nous savons que le hasard a bien fait les choses, Nanny Wunderli-Volkart étant première cousine de son mécène Werner Reinhardt. Peu après, Rilke écrit du valet à Marietta de Kurten la lettre publiée du 1er août 1921, le numéro 5. La remarque supprimée dans la publication, à savoir « Je rattrape car » a donc tout son sens après une pause épistolaire de plus de 2 ans. Rilke écrit cette lettre tout de suite après son aménagement à Musotte. La Rilke Concordance que j'ai mentionnée nous montre à quel point cette lettre adressée à une Valaisanne était importante pour le poète, car il écrit pendant cette première semaine dans la tour seulement à son mécène Werner Reinhardt, à sa cousine Nanny Wunderli-Volkart et à sa mère. Dans sa lettre à Mariette de Kurten, Rilke se réfère à son propre voyage en Valais l'année précédente. Je le cite. « Lorsque j'ai découvert le Valais l'année passée, au moment le plus accompli, celui des vendanges, j'aurais voulu vous saluer, ainsi que la comtesse Elisabeth, de la part de votre ancienne patrie. Mais je n'y étais alors que pendant 3 jours, sans mon carnet d'adresse, le carnet que vous avez vu. » Et de plus, je ne savais pas encore dans mon premier étonnement devant ce grandiose paysage, s'il était lui-même qui m'exaltait et qui m'exauçait, ou si c'était plutôt son extraordinaire parenté avec ces contrées que j'ai connues, aimées, dont je suis maintenant coupée et que j'ai cru reconnaître réunies dans cette vallée du Rhône, vaste et sublime, l'Espagne et la Provence. » Rilke justifie son deuxième voyage en Valais par sa curiosité d'apprendre davantage sur ce Valais, à la fois doux et puissant, comme il écrit, et il en déduit que les deux comptent. Citation, « Le souvenir au paysage lointain du Rhône et en même temps son environnement ici, un endroit merveilleux. » Le Rhône vient direct. Rilke, que ne connaissait pas de ses montagnes, sa diversité de plans, présenté maintenant, j'écrirai des pages et des pages sans jamais dépasser ce que vous avez de lui en vous. J'aimerais souligner que Rilke se renseignait dans cette lettre, comme dans d'autres, sur une maison de Kurten. Il écrit « Il y a une maison simple, merveilleusement tranquille, qui est toujours en possession kurtenienne, habitée, si j'ai bien compris, par une ou plusieurs dames de Kurten. » Est-ce que vous avez conservé des relations avec cette parenté ou avec celle de Sion? Il ne m'a pas déplu lors de ma conférence à Berne de souligner que j'ai le privilège de travailler dans cette maison simple et merveilleusement tranquille. La généalogie de la famille de Courten, établie par Antoine de Courten, montre, enfin, là on a un peu triché, on a rajouté les filles, montre que Mariette de Courten est une descendante du constructeur de ce manoir du XVIIIe siècle, Pancrace de Courten. Non, enfin, il a commandé.
Le premier qu'il a reçu,
Oui.
c'est pas lui qui l'a construit.
D'accord.
Et c'est son beau-père, excusez-moi.
D'accord. Non, mais c'est intéressant. Oui. Mais disons, le lien direct avec Marietta, il est là. Alors, on a. Donc, vous voyez que le cercle se ferme. J'imagine que Rilke aurait approuvé, il aurait été tout fier qu'il y ait une fondation qui porte son nom dans cette belle maison. La vie nomade de Rilke se manifeste quand il prie la comtesse de lui répondre « Solange ich hier bin », il écrit, « pendant que je suis ici ». Et déjà 3 jours après, il reçoit une réponse enchantée. Marietta de Courten lui répond « Enfin, enfin, si longtemps que j'ai cherché en vain à savoir où vous êtes, et j'ai toujours reçu la même réponse vague, quelque part en Suisse, mais où ?» Personne ne pouvait me le dire. Et maintenant, vous êtes précisément dans le canton de ma famille. Je ne peux pas vous dire à quel point je me suis réjoui d'entendre que vous vous y plaisez autant. Mais contrairement à Rilke, Marietta de Courten mesure quelque peu son enthousiasme. J'étais cette année à Sion et j'ai rendu visite à plusieurs de mes cousins. Ce sont des hommes simples et en bonne santé, avec d'innombrables enfants. Pour la plupart des Kalbermatten, peu de familles de Courten, parmi eux une dame âgée dans la maison à Sierre que vous avez mentionnée. Elle mentionne par ailleurs la visite de son père, Angelo de Courten, au Valais et souligne le fort lien de ce dernier avec le Valais. Elle encourage Rilke de lui parler à elle du Valais autant que possible et de rendre visite à son frère Carlo à Berne. Rilke se manifeste à nouveau le 30 novembre 1921 et joint à sa lettre une carte postale, celle que vous voyez ici, de Musotte, numéro 7 sur votre inventaire. Comme il dit, de son petit château qui a été mis pendant un temps à sa disposition, il énumère les habitants précédents, mentionne les meubles anciens et décrit sa position avec les mots. Il s'insère dans l'arrière-plan comme s'il était tissé dans un gobelin, à environ une demi-heure de Sierre. Mais comme il le fait souvent, il précise, cette carte ne le reproduit pas bien, mais vous voyez le beau geste du prunier à côté. Cet arbre-ci n'a rien à voir avec celui tout miteux que Rilke a mentionné auprès de Marietta de Courten à Munich. Dans la lettre qui accompagnait la carte postale, le numéro 8, Rilke évoque le difficile apprivoisement de sa tour après qu'elle a été louée. Là, vous avez la lettre. Je le cite. « Mais c'est alors que commença une longue lutte avec la vieille maison forte qui semblait avoir été trop longtemps inhabitée. Et cela se vérifia particulièrement quand il s'agit de prévoir les conditions hivernales. Les mois ont passé. » Et cela fait 8 jours que je suis à côté de Musotte comme un dompteur de lion à côté de la bête qu'il a soumise après avoir mis la tête dans sa gueule béante. Enfin, Musotte est apprivoisée et même apprivoisée pour l'hiver. Alors là, il utilise un néologisme en allemand absolument magnifique, Winterzahm. Winterzahm, apprivoisée pour l'hiver. Voilà, mais il fait un mot composé. Rilke résume ses nombreuses promenades et revient dans cette lettre sur la fameuse comparaison. Il dit « Quel pays, quel paysage ! J'ai depuis longtemps renoncé à les comparer à l'Espagne et à la Provence. Leur plus grande caractéristique est d'être incomparable. » Entre-temps, Rilke découvre les poèmes publiés posthumes « Terre valaisanne » de Louis de Courten. Et il dit à Marietta de Courten de les apprécier. J'ouvre encore une petite parenthèse. La fondation a il y a peu pu acquérir un volume, le volume par lequel Rilke a découvert ses poèmes. Il l'a rendu à la propriétaire l'ayant fait relier de cuir et avec cette belle dédicace respectueusement rendue à Madame Frischtroll, qui a tant de droits de prétendre aux amitiés des voix wallaisannes. Il est exposé dans notre musée. Le Valais est également au centre de la lettre vendue chez Ketterer Kunst à Munich, le numéro 9. Avec cette lettre, Rilke envoie ce volume de poèmes de Louis de Courten pour Noël le 20 décembre 1921 avec ces mots. Je suis encore sans nouvelles à ce sujet, mais je crois savoir que vous ne possédez pas ce petit volume qui contient et préserve l'héritage poétique du jeune Louis de Courten. Aussi, je me dépêche de les déposer sous le sapin pour vous et pour les vôtres. J'y ajoute quelques articles de la Gazette du Valais qui vous montrent à quel point le Valais se reconnaît dans ce noble écrivain, son poète, et combien non seulement ses pensées, mais aussi son influence, y souligne, sont restées présentes et vivantes durant ces années. Deux jours après arrivent les remerciements de Munich, le numéro 10, avec le souhait de la comtesse. Je formule mes meilleurs vœux, avant tout celui que mon poète préféré puisse trouver sa nouvelle demeure, à la fois beaucoup d'inspiration et de calme, afin de pouvoir travailler. Marietta de Courten remercie Rilke aussi pour le contact avec le Valais. C'est très aimable de votre part, elle écrit, de nous rapprocher toujours à nouveau du vieux siège de notre famille, car entretenir une correspondance avec le Valais est pour ainsi dire impossible, c'est comme écrire à la lune. On doit tout arranger personnellement, par écrit, il n'y a rien à faire. Ainsi, il se trouve que nous n'avons eu pendant longtemps aucune nouvelle de ces êtres particuliers qui sont malgré tout émouvant et attachant quand on les rencontre. Donc Rilke partage son enthousiasme du Valais non seulement avec ses contacts dans toute l'Europe, il essaye également de le faire aimer par les Valaisans expatriés. Avant l'arrivée de la prochaine lettre, Rilke... Avant l'arrivée de la prochaine lettre de la part de Marietta de Courten, Rilke reçoit à Musat la visite du frère de cette dernière, Carlo de Courten. On le voit ici, c'est un tableau réalisé par le père, Angelo de Courten, qui montre les deux frères, Félix et Carlo. Donc Rilke ne connaissait pas Carlo, mais qui est venu lui rendre visite à Musat en provenance de Berne, et il se réjouit de faire sa connaissance. Donc, Carlo Courten est inscrit à cette occasion quelques pages après ses sœurs dans le fameux carnet d'adresse du poète. Rilke relate cette visite le lendemain en détail dans une lettre à Nanny Wunderlich-Volkart, ça c'est la lettre numéro 16, je l'ai mise sur l'inventaire comme elle parle beaucoup de la famille de Courten. Il lui a écrit « Hier est arrivé tout à fait d'improviste un autre hôte qui admirait Musat, le comte Carlo Courten de Berne, frère de la comtesse Marietta, de la branche maintenant bavaroise, dans la maison familiale, actuellement en possession de la famille de Preux, existe encore en ville de Sierre. » Rilke mentionne la captivité de Carlo Courten et il regrette « Dommage que les siennes entretiennent si peu leur relation avec le Valais. » Comte Carlo Courten s'est beaucoup plaint de l'étroitesse, il met entre guillemets, au sein de sa parenté d'ici. Lui-même n'a fait la connaissance du Valais qu'en 1918. Suite alors la généalogie détaillée de la famille, le séjour italien et bavarois. Rilke excuse la distance avec le Valais de la branche bavaroise. Ainsi, on comprend qu'ils connaissent mieux l'Italie que le Valais, et que je les rappelle avec toute ma détermination à leur sang. Mais il se peut que ceux qui sont restés ici soient vraiment restés en place. Les meilleurs d'entre eux sont en plus farouchement opposés à tout ce qui est bochimé, entre guillemets. J'ai offert à Carlo Courten le petit volume de poésie de Louis de Courten, mort jeune. Je ne peux guère faire plus pour la tradition courtenienne. À peine un mois plus tard, le 19 avril 1922, Carlo de Courten se trouve à Miesbach où il écrit une carte au poète avec la devise « Und aber rundet sich der Kreis, mais le cercle se ferme ». Cette carte, signée par d'autres personnes de leur cercle d'amis communs, montre un Bouddha qui se réfère sans doute au poème, il y a plusieurs, éponyme de Rilke, et que les amis connaissaient. La devise, elle, fait référence à la conversation entre le poète et Carlo Courtena Musot, dans la dite lettre « Nanni Wunderli Folkart », nous lisons donc, par rapport à Carlo Courtena, malgré que je ne le connaisse pas encore, vu mes nombreuses relations bavaroises, nous n'avons pas manqué de cercles qui se fermaient instantanément. À ce sujet, me vient aussi à l'esprit le passage d'une lettre de Rilke à Elia Maria Nevar, l'actrice, dans laquelle il cite, pendant ses années munichoises encore, les vers suivants du Stundenbuch, du livre d'heures, « Es war ein Kreis um die Heimatlosen ». Ce cercle unit ici les dispersés, et n'oublions pas que ce motif montre que ni le frère ni les sœurs de Courte ni Rilke vivaient pendant ces années à Munich dans leur patrie. Plus d'une année après cette visite et cette carte, Rilke demande dans la lettre du 6 mai 1923 à Nanni Wunderli Folkart, « Est-ce que je vous demande encore une faveur? Pourrais-je emprunter le volume 2 du Schweizer Geschlechterbuch? Je vous les rendrai dans 2 jours. C'est à cause d'un article de Courten sur page 97 de ce volume. J'aimerais consulter plusieurs informations que j'aurais besoin de savoir rapidement. » Déjà en 1921, Rilke fait des recherches sur cette famille dans la Geschichte der Schweizer in fremden Diensten. Quelle était la raison de son intérêt renouvelé? Je peux m'imaginer que Rilke voulait se documenter en vue de la conversation lors de la première visite imminente du docteur de Sepibus et de Jeanne de Sepibus à Musot, le 14 mai 1923. C'est une hypothèse, mais ça pourrait être possible. Avec une carte postale de Rome du 24 février 1923, Marietta de Courten remercie pour une lettre qui ne nous est pas connue. C'est le numéro 12 sur la liste. Vielen Dank für lieben Brief. Schreibe den next, Marietta Courten. De l'humeur de la part de la comtesse, cette carte avec une feuille de rosier qui se fait dévorer par une chenille quand nous savons à quel point Rilke a choyé ses roses et qu'il avait soin pour elle. La lettre promise sur cette carte arrive bien plus tard dans l'année, c'est le numéro 15. Elle a été écrite à Munich et a été, comme Marietta de Courten le précise, envoyée par son frère depuis Berne. Nous avons ici l'enveloppe. Ça, c'est typique pour Rilke que les lettres le rejoignent et après avoir été transmises. Là, il était chez Nanni Wunderli Folkart à Meilen, donc la lettre a fait tout un tour. Mais elle a été postée au Kornplatz à Berne, donc par le frère de Marietta de Courten. Dans cette lettre, donc, il est question de son voyage en Italie, celui de Marietta de Courten, et la comtesse lui envoie même un poème que Venise lui a inspiré, et elle fait état du déménagement de Carlo de Courten à Munich. Ce déménagement est marqué dans le carnet d'adresse, mais après le séjour de Berne. Des photos que Rilke semble avoir envoyées avec une lettre du 20 du 3 1923 ont également disparu. La lettre est inconnue, numéro 14. Elle se serait perdue pendant ce déménagement. Marietta de Courten écrit dans cette lettre qu'elle souffre, à quel point elle souffre de l'après-guerre et envie le poète pour pouvoir séjourner en Valais. Voici pour la correspondance. J'ai choisi quelques extraits de cette lettre qui sont vraiment riches et intéressantes. Et j'aimerais terminer avec le cercle d'amis communs. Donc, il peut être partiellement reconstruit par les lettres, par ce qui est dit, par les signataires des 2 cartes postales. Par exemple, le couple Edgar et Lucy Spiegel sont mentionnés plusieurs fois. Lui, un diplomate autrichien dont Rilke fait la connaissance en 1916 à Vienne, est devenu en 1919 consul général pour l'Autriche en Suisse. Les lettres que Rilke lui a adressées ont été publiées dans Rilke Perspektiven en 2004. La correspondance avec Elisabeth effraie aussi une jeune femme qui écrit des poèmes et qui demande l'avis sur ces derniers à Rilke a été publiée également par Joe Catling. Et l'échange épistolaire entre Rilke et Marietta Mirbach-Geldern, qui est aussi une amie commune, a paru en 2005. Est-ce qu'on peut compter Elia Maria Nevar parmi leurs amis communs? En route en Italie, elle écrit à Rilke, je la cite, « J'aimerais avoir de tes nouvelles. Les messages à moi sont à envoyer à ma dernière adresse munichoise, à Marienstrasse 55. » La Marienstrasse 55 est l'adresse sur l'enveloppe de la lettre par Marietta de Kurten que je vous ai montrée en début de cette conférence. J'en dédie qu'elle a dû connaître, voire héberger l'actrice chère à Rilke, ou servir au moins de boîte à lettres. Ainsi, un autre cercle se ferme. Nous nous demandons bien sûr comment Rilke a connu la famille de Kurten à Munich. Regardons de plus près le registre d'adresses de l'époque, ce n'est pas encore un bottin téléphonique, dans laquelle figure l'adresse munichoise d'Angelo de Kurten, donc à Marienstrasse, mais également celle de son atelier situé à la Blütenstrasse 17, à 5 minutes à pied de la Marienstrasse. C'est une rue que Rilke connaissait et il y habitait même en arrivant à Munich en 1897, comme il écrit à sa mère et à Lou Andrea Salomé. Je le cite, « Car je continue mon voyage au lieu prochain incessamment et tu peux adresser toutes tes lettres à ma demeure de Villa Blütenstrasse 8. » Alors, on sait d'après ces lettres que Rilke n'a pas connu Angelo de Kurten, mais il se peut qu'il ait peut-être rencontré Mariette de Kurten déjà pendant un séjour précédent à Munich, ou alors justement à Marienstrasse, à Einmillerstrasse et tout près. Nous n'avons pas pu pour l'instant reconstruire comment cette connaissance a été faite. Voilà, alors ce que nous avons maintenant de l'intérêt, quelqu'un qui est intéressé à publier cette correspondance, nous espérons que ça pourrait se faire, ce projet en deux langues, ça serait forcément en allemand et en français. Et on verra, peut-être d'ici là, nous aurons encore d'autres éléments qui rentreront dans le cadre de cette correspondance. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis vraiment très contente d'avoir pu vous montrer ça, monsieur de Kurten.